Il y a plusieurs équations dans la parole de Dieu où Dieu nous demande de faire les choses selon un ordre. Il y a quelque chose qui est important pour être capable d'atteindre les promesses. Il faut suivre l'équation que Dieu nous donne. Il n'y a pas seulement des lois, il y a aussi des façons de faire. Moi, quand je suis rentré dans le travail, on m'a appris les règles, mais on m'a appris aussi la façon de faire. Puis on m'a dit, il y a quelque chose qui est bien important, la connaissance plus l'expérience donne l'expertise. Et quand que Paul parle de maturité spirituelle, il parle d'expertise, de quelque chose qui a été prouvé, qui a été reconnu comme juste et vrai. Une vérité, tant aussi longtemps qu'elle n'a pas été prouvée, vous ne pouvez pas savoir si c'est une vérité. Il faut que la vérité soit éprouvée. Et même dans la parole, va plus loin, de dire vous allez être, vous allez être éprouvé pour votre foi afin d'être justifié par votre foi. Ça veut dire que croire que Dieu existe et ne jamais marcher en faisant confiance à ce que Dieu peut faire ne fait pas que tu marches par la foi. Les démons savent que Dieu existe, mais ne marchent pas en fonction de répondre à la volonté de Dieu. Tout le monde sait que Dieu existe. En tout cas, tu peux le nommer comme tu veux, mais ça ne veut pas dire que la gloire de Dieu reflète ta vie. Il y a quelque chose dans la vie chrétienne qui doit être pertinent pour chaque personne qui décide de donner sa vie à Christ par la croix, c'est de dire, « T'as promis que j'aurai une vie abondante, que des fleuves d'eau vive gériraient de ma vie. » C'est pas rien, ça. C'est pas juste une image pour embellir le texte. Véritablement, quand tu lis les actes, il y a quelque chose qui se passe et tu dis, la vérité, c'est que ces gens-là ont une vie riche et des fleuves d'eau vive jaillissent de leur vie. Il y a un impact dans leur milieu. Leur vie change. Leur maison change. La ville change. Alors, voici une arithmétique qu'on peut retrouver dans les actes. Est-ce que tu peux mettre la PowerPoint, s'il te plaît? Le premier. Le temple plus les groupes maisons égale église disciple. Ça fait 20 ans que je fais des cellules. Ça fait 20 ans que je fais des groupes maisons. Et je peux vous dire de quoi? Les groupes maisons ne sont pas suffisants sans le temple et le temple n'est pas suffisant sans les groupes maisons. Il y a vraiment une coordination entre le temple et le mandat du temple et le mandat des groupes maisons. Les deux ont reçu des mandats. Et c'est pour ça que Dieu dit, je veux que tu suives mes préceptes. Je veux que tu comprennes où ce que je veux t'emmener. Je veux que tu appliques cette arithmétique dans ta vie. Mais pour être capable d'appliquer l'arithmétique, il faut être capable de comprendre c'est quoi le mandat. Parce qu'on peut se rencontrer dans des salons pendant des années. Et j'ai perdu nombreuses années à me rencontrer dans un salon pour faire des partages de patati patata, compter ses malheurs, mais pas nécessairement appliquer le mandat que j'avais reçu de Dieu parce que je ne connaissais pas le mandat. J'ai bu des litres et des litres de café et mangé des tonnes de gâteaux pour pas, au bout du compte, de dire, en fait, il n'y a pas grand-chose qui jaillit d'ici. Et je n'ai pas l'impression que, à part d'être rassasié de gâteaux et de café, de ne pas avoir cette vie riche et abondante qui devrait venir, je fais juste une rencontre où on parle de Dieu. Mais on peut avoir beaucoup de discussions de Dieu. Les pharisiens parlaient de Dieu, matin, midi, soir. Mais il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas, c'était la puissance de la vie qui était active en eux. Et j'aimerais vous lire un verset dans lequel on voit, on dénote cette arithmétique. Est-ce que tu peux aller au prochain acétate? Acte 2, verset 46-47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le peuple regardait ces gens-là, il est en admiration. Wow! Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose de plus que juste de dire, « Hey, on mange de la fondue. » Non, il y a quelque chose de plus que ça. Il y avait une joie qui accompagnait le fait de manger de la nourriture. Et il y avait une simplicité au niveau du cœur. Et ça produisait quelque chose qui s'appelle, moi je crois, la puissance de l'Église, la puissance de l'Esprit de l'Église. Et regardez l'impact. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je me suis cassé le pompon pour essayer de comprendre ce verset-là. Je venais à l'église à tous les dimanches. J'allais dans mes cellules, mais il n'y a pas personne qui s'ajustait. Pourquoi? Puis, je réalisais que malgré tout ce que j'appliquais comme programmation, je n'avais pas une joie à l'intérieur de moi et des fleuves d'eau vive qui jaillissaient. Il y avait quelque chose que j'avais manqué au départ. Et j'ai pris à cœur de véritablement sonder les Écritures pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce verset-là. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont une interprétation sur c'est quoi l'Église. Un point tel que la langue française, pour essayer de nous comprendre, a démêlé deux affaires. De quoi tu parles quand tu parles de l'Église? Est-ce que tu parles du bâtiment? OK. Est-ce que tu parles de quoi? Parce que si tu parles d'un bâtiment, on va dire que c'est un petit « e » avec un accent. Mais si tu parles du corps de Christ, OK, là, ça va être un grand « e », un « e » majuscule avec un accent. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas cette distinction-là. On n'a jamais réduit l'Église à un bâtiment. L'Église a toujours été le corps de Christ. Mais pour beaucoup de croyants, le but, c'est de venir à l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Quelle compréhension qu'on a de l'Église? Il y a certaines personnes qui disent que le temple n'existe plus. Qu'est-ce que le temple? C'est quoi un temple? C'est quand même des questions importantes. Est-ce que Dieu se réduit à un bâtiment? Bien, quand le bâtiment est tombé, donc Dieu est mort. Bien, là, Dieu, il est, je ne sais plus où ce qu'il est. Fait qu'il n'y a plus de plan. C'est difficile de trouver un endroit pour aller l'adorer. Je ne sais plus ce qu'il est. J'étais à 6500 km de Jérusalem. Fait que moi, je suis comme dépourvu de pouvoir aller l'adorer. Je pourrais faire comme les musulmans, pointer vers l'Est. C'est quoi le temple? C'est quoi le mandat du temple? Les disciples étaient remplis de l'Esprit, avaient eu la connaissance, avaient connu la chambre haute, et malgré tout, à chaque jour, ils étaient assidus au temple. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Si le temple n'est plus important, pourquoi qu'il est assidu chaque jour au temple? Pourquoi Jésus se tenait au temple? Si dans son idée à lui, le but c'était de le détruire, ou de faire quelque chose de nouveau. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on lit. Parce que si on ne comprend pas le mandat des choses, c'est difficile d'aller à un endroit puis le reproduire. Kid Green disait à propos de l'Église, et c'est un adorateur incroyable. Pour les gens qui connaissent cet homme-là, en l'espace de 10 ans de vie chrétienne, il a fait des choses, il a produit une dizaine de disques, il a bouleversé, écoute, comme un rat de marée, il a bouleversé les États-Unis, l'Amérique du Nord. Il a ébranlé le milieu chrétien. Mais voici la phrase qui a marqué la vie de Kid Green. Lui, il disait « sans compromis ». Il y a sans compromis. Tu veux donner ta vie à Christ, sois sans compromis. Il était une voie pour une génération de gens qui s'étaient enlisés dans la religiosité. Et cet homme-là venait, par ses chants et par son témoignage, amener une génération à dire, « Le meilleur se trouve quand tu es radical. Quand tu donnes ta vie et tu te mets à part pour Christ, le meilleur est là. » Et ce gars-là était rempli de talent et de succès. Et c'est incroyable ce qu'il a fait. Et lui, il disait dans les églises, « C'est pas parce que tu vas chez McDonald's que tu deviens un hamburger. » C'est pas parce que tu rentres dans une église que tu finis par être chrétien. Et l'idée qui animait cette pensée, c'est de dire, si tu veux rentrer dans l'Église, il faut premièrement que tu sois disciple. Parce que l'Église n'est pas quelque chose d'un bâtiment. L'Église, c'est une maison spirituelle. Et pour faire partie de cette maison-là, il faut que tu deviennes disciple de Jésus. Sans le sang, tu ne rentres pas dans l'Église. Fait que même si tu amènes une personne semaine après semaine à l'Église, tant aussi longtemps qu'elle n'a pas été rencontrée de Christ et donné sa vie à Christ, elle ne peut rentrer dans l'Église. Et l'Église vient avec cet esprit qui nous permet de bâtir cette maison spirituelle. Voici comment que Paul en parle dans Éphésiens 4:16. Celui dont le corps tout entier, on parle de Jésus, de son corps à lui, de l'Église, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Il grandit lui-même dans l'amour. Comment expliquer ça de façon concrète à quelqu'un qui veut prendre part à l'Église? On est unis, on croise ensemble, et chacun de nous, opérant, dirigé par l'Esprit, se joint pour arriver à un but commun. On a du chemin à faire, non? Est-ce qu'on a du chemin? Je ne dis pas ça pour nous encore. Je fais juste faire le résultat. De dire, il y a sûrement une raison pourquoi il a écrit ça. Il y a une raison pourquoi il recherchait ce but-là. Parce que la vie se trouve là. Ils étaient dans les maisons, remplis de joie, simplicité de cœur, et le peuple alentour de eux était bouleversé et donnait leur vie pour suivre Jésus. En 1994, moi et ma femme, on a reçu une prophétie. On n'était pas encore mariés, mais on était sur le point de se marier. Et sur cette prophétie-là, ce que j'ai reçu, c'est que le Seigneur me disait, « Je veux que tu élèves une génération de radicaux pour moi. Les temps s'en viennent et je veux que tu élèves des soldats qui vont amener, qui vont livrer une guerre dans les lieux célestes pour changer la face de cette nation. » Et j'ai pris cette mission à cœur. Et quand ma femme, on s'est mariés, ça a été, elle aussi, elle avait reçu des paroles similaires. Et c'est devenu le centre, l'épicentre de notre famille. Tout a été de faire en sorte d'amener des chrétiens radicaux. Et j'ai dû apprendre beaucoup. Premièrement, de savoir c'était quoi être un chrétien radical. J'étais radical sur bien des affaires, mais j'étais tellement irrité, puis tellement de personnalité, puis d'immaturité, que mon côté radical était beaucoup plus faisait l'effet contraire, dans le fond. Au lieu d'élever, j'abaissais les gens. Et il y avait vraiment quelque chose dans mon cœur qui m'empêchait de communiquer l'amour de Dieu. Mais surtout, je me suis rendu compte que malgré le nombre de livres que j'ai pu lire, des centaines de livres pour savoir comment faire des disciples, et j'ai écouté des prédications pour savoir comment qu'on fait les programmes et tout. Et après avoir 10 ans d'œuvrer, j'ai vu des résultats, mais il manquait toujours quelque chose. Après 10 ans, on était, moi et ma femme, complètement fatigués. On était usés. Et je me souviens, j'étais dans mon salon et je priais de dire, « Seigneur, c'est comme, tu sais, dis-moi-le si c'est pour être comme ça, non? » Je disais, « Si je peux pelleter du sable toute ma vie, non, fais juste me le dire, je suis content. » Mais là, tu as mis dans mon cœur qu'il était pour avoir quelque chose qui était pour germer, là, ce désert-là. Là. Fait que je le cherche, l'oasis, là. Je le cherche, là, cette terre promise. Puis le Seigneur m'a dit, « Joanne, peux-tu me donner encore un peu de ton temps, puis un peu de ton énergie? J'aimerais ça que tu prennes soin d'une personne en particulier. » Je veux que tu gagnes cette personne-là, je veux que tu gagnes son cœur pour moi. Je veux que tu lui dises que s'il me suit, je vais l'amener dans sa destinée puis il va vivre quelque chose de glorieux. Puis j'ai dit, Seigneur, dis-moi c'est qui? Il dit, c'est toi. Il dit, c'est toi. Il dit, tu es tellement préoccupé à écouter, puis à lire des livres, puis à faire, c'est bon. mais on n'a plus de temps ensemble. Tu me suis pour moi. Tu suis l'écho des gens, même de ceux qui me connaissent, mais toi, tu ne me suis pas. Et c'est difficile pour toi de former des disciples, parce que tu n'es pas un disciple. Tu ne peux pas reproduire ce que tu n'es pas. Toi, tu amènes les gens à des programmes. Moi, je veux les avoir pour moi. Et c'était quelque chose de beaucoup plus intime. Et j'étais obligé de revoir mes lectures. Non plus pour former des disciples, mais pour former comme disciples. Et il y a vraiment quelque chose que je me suis aperçu, c'est que beaucoup des enseignements que Jésus, que j'ai lus, ces enseignements-là, on doit mettre 100% de notre énergie à les intégrer dans nos vies. Et 100% de ces enseignements-là pointent tous dans la même direction, transmêlés. Fais des disciples transmêlés. Fais en sorte que tes enseignements par ta vie deviennent un exemple à suivre. Et ce matin, je veux pointer deux mandats très clairs qui fait de nous des disciples. Le premier, je veux déterminer qu'est-ce qu'est le temple. Il faut savoir pourquoi que les disciples étaient assidus au temple chaque jour. On dit littéralement que les disciples, tous les disciples se réunissaient au temple. Qu'est-ce qu'il allait faire, là? C'est vrai, il allait prier. Mais je connais des gens qui prient depuis des années. Il manque encore quelque chose. Prier, c'est demander quelque chose à Dieu. Est-ce qu'il allait prier nécessairement? Est-ce que le temple a été fait pour qu'on y aille prier? Les disciples se réunissaient ensemble pour prier, mais allaient au temple pour d'autres choses. Adorer. Prier et adorer, c'est deux choses très différentes, je peux vous dire. Et j'aimerais pouvoir ramener. Il faut comprendre pourquoi le temple a pris place. Le temple n'est pas unique. Le temple n'a pas. Dieu n'a pas commencé à se manifester à cause que le temple a été construit. Dieu était là bien avant. En terme grec, le temple veut dire lieu sacré, lieu saint. Lieu d'adoration. Le temple, c'est un endroit où Dieu reste, c'est la demeure de Dieu, c'est un endroit où Dieu est présent. Et le thème hébreu, c'est Haira, qui veut dire palais et sanctuaire. Encore une fois, représente, on rentre, c'est littéralement le temple et le que ce soit en grec ou en hébreu, l'interprétation, c'est que tu rentres dans un endroit royal. Il y a un endroit où tu rentres, où tu es mieux de ne pas parler. Ce n'est pas un endroit où tu t'adresses pour arriver avec tes choses d'usage quotidien. Tu rentres en présence de quelqu'un, d'une présence qui doit t'inviter à rentrer. Tu ne peux pas violer ce lieu-là. On peut savoir que dans l'Ancien Testament, quand il passait le rideau qui était dans le tabernacle, il passait le rideau pour aller, une fois par année, le grand sacrificateur passait ce rideau-là pour aller adorer Dieu. Et on attachait à son pied une corde. Parce que quiconque franchissait ce rideau-là mourait. Tellement que la présence de Dieu était forte à cet endroit que tu ne pouvais pas rentrer. Et il y avait tout un processus que le grand sacrificateur devait faire pour s'assurer d'être pur, pour rentrer dans la présence de Dieu. Et au cas où qu'il y ait de quoi, on l'attachait par une fille, on disait, on va le tirer, parce que si tout le monde se rend là, il va t'avoir un amont de cadavres là-dedans. Mais il faut comprendre qui est Dieu. Il faut comprendre pourquoi que l'adoration est si importante, parce qu'on peut se façonner toutes sortes de dieux. Mais le Dieu que l'on connaît par le Fils de Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. N'est pas n'importe qui. Il ne se fait pas servir n'importe comment non plus. Alors, on peut faire un petit historique. Premièrement, on peut voir qu'il y a plusieurs endroits où Dieu a mis sa résidence. Pour que l'homme puisse venir adorer, Dieu a fait en sorte de placer des endroits sur la terre où l'homme peut se déplacer pour aller à cet endroit. Et Dieu aime qu'il y ait une rencontre entre lui et l'homme. Il aime qu'il y ait un endroit de rencontre. Dieu ne s'imposera pas ta vie, mais tu ne t'imposeras pas la sienne. Il faut qu'il y ait une volonté de part et d'autre. Si on est libre, on doit avoir une volonté de part et d'autre de se rendre à un lieu de rencontre. On peut lire la première fois que Dieu a créé ce lieu de rencontre. On peut voir dans le jardin. À l'origine, le jardin était un lieu de rencontre où ce que Dieu avait placé l'homme dans un endroit où ce que l'homme et Dieu pouvaient se rencontrer. Mais encore une fois, Dieu n'arrivera jamais dans un endroit pour s'imposer à ta vie. Il va mettre un lieu où ce que tu vas te rencontrer. Et regardez dans Genèse 3, versets 8 et 9. Alors, ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin, mais l'Éternel Dieu appelait l'homme, il lui dit, « Où es-tu? » Dieu respecte votre vie. Est-ce que Dieu savait où ce qu'il était? Oui. Est-ce que Dieu respecte vos choix? Oui. Il ne veut pas vous amener à être esclave. Il veut vous amener à être libre. Il veut faire de vous des héritiers. Y a-t-il déjà un héritier qui était contraint de vivre sous une contrainte constante? Non, l'héritier, il est là parce qu'il veut poursuivre l'œuvre de son père. Il y a une compréhension, il y a un accord qui est fait de vouloir reprendre et de développer comme Jésus a été avec son Père. Encore aujourd'hui, Dieu nous laisse libres. Pourquoi que le temple est important? Parce que c'est un lieu de rencontre que Dieu nous a donné. Et encore aujourd'hui, Dieu nous laisse libres de venir dans sa rencontre avec lui. Qu'est-ce qu'est le temple aujourd'hui? Bonne question. Où est le temple aujourd'hui? C'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Non. Une brique ne fait pas un temple. Et c'est là qu'est le hic. Permettez-moi de continuer. Dieu a été premièrement et à plusieurs endroits, mais on peut voir de façon significative que Dieu était avec l'homme dans le jardin, et le jardin était un sanctuaire où l'homme venait à la rencontre de Dieu. Lorsque l'homme a péché, ce lieu-là a été fermé. Le sanctuaire a été souillé. Et à partir de ce moment-là, l'homme était mis en dehors du jardin. Et Dieu a dû trouver d'autres alternatives pour remettre d'autres rendez-vous. On peut voir dans l'histoire avec Jacob, à Genèse 28, Dieu s'adressa à Jacob par un songe et déclare, c'est Jacob qui déclare, parce qu'il y a eu un songe de Dieu, Dieu lui a parlé, il dit, « Ici, c'est la maison de l'Éternel. C'est ici la porte des cieux. » Et Jacob appela ce lieu Bethel, qui signifie maison de Dieu. Le mot Bethel veut dire maison de Dieu. C'était le nom d'une autre ville, ça s'appelait Luz, je crois, qui était le nom de cet endroit-là. Et Jacob a rebaptisé en disant, non, ce lieu-là ici, Dieu vient à la rencontre de l'homme. Et j'appelle ce lieu Bethel. Et on peut lire au verset 31, Genèse 31, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel. Dieu confirme que c'est véritablement une résidence qui a établi. Je suis le Dieu de Bethel. Jacob a pris ce lieu puis il l'a mis comme un autel en disant, voici, ce lieu devient un sanctuaire et je vais venir donner ma dîme de tout ici. Je vais venir sceller mon avenir. Je vais aller sceller tout ce que je suis, je vais le sceller ici. Parce que la parole que Dieu m'a dit, une parole de vie pour mes avenirs, pour mon avenir. Et Dieu a confirmé. Il a dit, « T'as vu juste. Je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu qui réside dans cette maison. » Ce lieu est devenu un sanctuaire pour adorer. Donc, c'est intéressant. On passe d'un jardin en soute d'une pierre. Y a-t-il d'autres lieux? Dieu a donné rendez-vous à Moïse sur le mont Sinaï ou à Horeb. Et ce lieu est devenu un sanctuaire. Et on ne pouvait pas le profaner. Dieu dit, il ne faut même pas qu'il y ait une bête qui rentre ici. Si une bête s'avance sur cette montagne, vous allez la tuer, vous allez la lapider, parce que ce lieu-là est devenu saint. Et c'est sur cette même montagne que Moïse a pris pour la première fois contact avec Dieu. C'était sur cette montagne-là qu'il y avait aussi le buisson ardent. Sur cette même montagne, il y a aussi eu les tables. Et sur cette même montagne, Moïse a reçu principalement toutes les lois et les préceptes de Dieu. Et Moïse, vous savez ce qu'il a fait sur cette montagne? Il a adoré. C'est quoi adorer? Adorer, ce n'est pas prier, ce n'est pas louer. On peut voir que Moïse est un des plus grands adorateurs que la terre a porté. Moïse connaissait le sens exact du mot adorer. Quand que Dieu dit, Moïse, aimerais-tu une requête? Aimerais-tu que je fasse de quoi pour toi? Que Moïse, sans hésiter, dit, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. C'est ta gloire que je veux voir. Laisse faire les choses de la terre. Je veux voir ton sanctuaire. Je veux voir ton tronc. Je veux savoir qui tu es. Je veux voir où tu habites. Je veux connaître qui tu es. Il ne demandait pas des choses pour la terre ou des choses pour lui. Laisse-moi venir avec toi. Adorer, c'est littéralement chercher à connaître la personne de Dieu. C'est littéralement de plonger son regard et de plonger tous ses sens pour essayer de savoir qui est Dieu. C'est de se mettre littéralement comme une offrande en disant, en m'offrant comme une offrande, la fumée va monter jusque dans sa présence. Je veux tellement pouvoir savoir qui est Dieu. Et Moïse, à chaque fois qu'il rentrait en présence de Dieu, on peut lire par la suite dans Exode 39, lorsque Moïse rentrait dans l'entrée de la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait à Moïse. Moïse ne disait pas grand-chose. Il dit, « Qu'est-ce que je peux t'apprendre que tu sais déjà? J'ai intérêt de prendre ce temps-là à profit et d'être à l'écoute de ce que tu as à me dire. J'ai l'impression que tu es beaucoup plus pertinent que moi je peux l'être. » L'adoration, ce n'est pas louer. Louer, c'est que vous louez ce que vous connaissez. L'adoration, c'est que vous cherchez ce que vous ne connaissez pas encore. Vous cherchez une révélation de qui est Dieu. Vous voulez que Dieu vous instruise de sa présence. Vous louez ce que vous connaissez de Dieu. Mais l'adoration, c'est quelque chose qui est à l'inverse. C'est quelque chose qui opère les sens différents. La bouche se ferme et les oreilles s'ouvrent. Ensuite, Moïse a eu l'instruction, justement, de dire, « Fais-moi un sanctuaire. Je veux habiter au milieu de ce peuple. » Et Dieu a refait un point de rencontre pour que les gens puissent aller dans sa présence. Et ça n'a pas changé. Jésus a prononcé encore la même parole dans Jean 4, 23, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que cherche le Père. Est-ce que le Père veut avant tout des ouvriers? Non. Est-ce que le Père veut absolument que vous fassiez quelque chose pour lui? Non. Ce qu'il veut, c'est que vous puissiez marcher avec lui. Il n'y a pas de besoin que tu fasses quelque chose pour lui. Il n'y a rien que tu peux faire pour lui. La seule chose que tu peux faire pour lui, c'est de te permettre de le suivre. Et ça, ça change. Ça change votre façon de comment votre relation va se développer avec le Père. Et c'est ce que j'ai compris les 10 premières années de ma vie. C'est que j'étais seulement un ouvrier. Je voulais plaire à mon Père comme on me l'a appris. Et je faisais toutes les tâches qui m'étaient demandées pour que ça soit agréable dans la maison. Fais ta chambre, ramasse tes affaires, ramasse le comptoir, ramasse ta vaisselle sale, ramasse tes bas. Puis Fait que je me suis dit, OK, Seigneur, toi, tu veux que je prenne soin du monde, tu veux que je fasse du ménage dans ta maison, je vais faire ça. Puis ma compréhension était littéralement de plaire à Dieu. Parce que dans toute mon enfance, l'objet de ma relation avec mon père n'était pas de vivre une communion. Était de faire en sorte que je ne lui tape pas ses nerfs. Puis que j'existe sans trop exister. Et c'est un peu la relation qu'on a reçue de l'héritage. Mon père travaillait. C'était un pourvoyeur. Il était centré sur son travail et son talent. Puis ce qu'il nous disait, c'est de dire, ben, tu sais, quand tu vas avoir 18 ans, tu vas être autonome, ça va être fini que je vais te faire vivre, tu vas avoir ta propre maison, puis toi aussi, tu vas aller travailler, puis ainsi de suite. Le but n'a jamais de participer à une œuvre ensemble. J'ai jamais été élevé pour suivre mon père. Ben oui, mais c'était pas agréable. J'avais plus l'impression d'être un cheap labor que nécessairement d'être un fils héritier dans lequel j'avais tout le maximum de tout, que j'hériterais le maximum de tout ce qui était. J'avais pas le droit de toucher à grand chose. Puis, tu sais, ce que j'avais comme corvée, c'était souvent la moins intéressante. Mais il y avait quelque chose, par exemple, que j'ai appris, c'est que l'adoration fait partie de cette relation-là où on est captivé par le Père. Captivé par son amour, captivé pour ce qu'il y a pour nous. Captivé de savoir qu'on est la chose qui est la plus précieuse à ses yeux. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et son Fils a tellement vu d'amour dans son Père. Il dit, je tombe en amour. Est-ce que je t'ai vu? J'ai vu dans ton regard sur cette création. Permets-moi de te la racheter. Et c'est un peu ce qui doit briller dans notre cœur. Si on est des adorateurs, on doit voir dans les yeux de notre Père ce que le Père veut qu'on rachète. Et on tombe en amour avec sa création. Et faire des disciples, ce n'est pas une corvée. C'est la plus belle mission qu'on nous ait confiée. C'est celle qui est la plus haute et la plus digne de confiance qu'on a reçue de notre Père. Prends soin de tes frères. Prends soin de tes sœurs. On peut voir ensuite qu'il y a d'autres endroits où ce que Dieu a véritablement fait des points de rencontre. Le temple de Salomon était un autre endroit. Et c'est quelque chose qui est marquant. David était un adorateur, aimait Dieu. Et aimait tellement être dans sa présence qu'à un moment donné, il s'est senti mal parce que Dieu, il dit, parce que tu es dans ma présence, parce que je t'ai fait connaître. Je t'ai fait connaître mes préceptes. Et tu as marché avec obéissance, je t'ai fait prospérer. Et David, la maison de David était un palais somptueux qui attirait la convoitise de pratiquement tous les autres royaumes. Mais David, dans son palais, était triste. Il dit, pendant que moi, je vis dans un palais somptueux, de richesses de toutes sortes, mon Dieu vit sous une tente. Et Dieu dit, je veux te faire un palais. Je veux te faire un palais encore plus magnifique que ma maison. Et on connaît l'histoire. David avait été un homme qui avait malheureusement versé le sang. Et ça n'a pas été lui, mais il a confié cette responsabilité-là à Salomon, son fils. Et Salomon a reçu la sagesse de Dieu pour construire un temple à l'image de son Dieu. Et on dit que ce temple-là était d'une beauté que les gens traversaient littéralement le monde entier pour venir voir la beauté de ce temple-là. Et la gloire de cette maison a été remplie par la présence de Dieu. On peut lire dans 2 Chroniques 5, 14, Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Wow! Vous savez, Tommy Tenney a écrit dans son ouvrage « La maison préférée de Dieu », une phrase qui est très juste selon la maison de Dieu. Il dit « Si vous la construisez, il viendra. » Construisez une demeure pour Dieu. Selon ses préceptes, selon ses indications, il va venir. Des fois, on a l'impression qu'on on, on, Est-ce que ça peut devenir clair dans l'esprit d'un croyant de dire comment construire une maison selon le cœur de Dieu? Où le Shekinah, où la présence de Dieu, où la présence de Dieu va venir prendre plaisir à habiter? Malheureusement, le temple de Salomon a été détruit au fil des centaines d'années qui ont suivi. Le peuple s'est détourné de la maison de Dieu, s'est mis à adorer. D'autres dieux se sont mis à ne plus chercher sa présence, sont devenus extrêmement religieux puis même arrogants à partir de cette maison. Et Dieu a averti le peuple par les prophètes Jérémie et Ézéchiel que le temple serait démoli. Mais parce que Dieu veut toujours créer un lien de rencontre, Dieu a donné une prophétie à Jérémie en disant, il va avoir un terme de 70 ans dans lequel je vais refaire un point de rencontre pour que l'homme revienne dans ma présence. Mais en ce moment, je vais respecter son choix. Il se cache en arrière des idoles de ce monde, comme Adam et Ève se sont cachés en arrière des arbres, et je vais respecter leur choix. Je vais retirer mon sanctuaire de leur présence. Mais Dieu avait en tête un plan encore plus glorieux. 70 ans plus tard, Zorobabel a reconstruit un nouveau temple qui était de loin inférieur au premier. Un point tel que quand le temple a été édicacé, on pouvait voir dans la foule, parce qu'à 70 ans, il y avait des gens qui l'avaient connu, le premier temple. Et on voyait les plus jeunes qui bondissaient de joie parce que le temple était enfin érigé. Et on dit que dans la parole, que les personnes âgées pleuraient en disant, « Oh non, c'est ça notre temple. » Pleuraient la gloire du premier. Parce qu'ils disaient, « Écoute, oh, c'est tellement pas à l'image de notre Dieu. » Mais voici qu'un prophète âgé vient. Il dit, il déclare, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. » Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette maison sera supérieure à la première. Et là, on approche un peu plus à notre compréhension de ce qu'est, c'est quoi le temple. Et on commence à s'approcher de plus en plus du verset premier. Les disciples étaient assidus au temple. Ils commencent à avoir une connexion. Il y a des chemins qui sont en train de se rendre au bon point. Dans Jean 2, verset 19 à 22, Jésus confirme ce plan. Jésus leur répond en parlant des pharisiens, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs disent, « Il a fallu 46 ans à bâtir ce temple et toi, en trois jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dit. Dans 1 Pierre 2, verset 5, Pierre reprend cette illustration avec la vérité du nouveau temple. Et vous-même, en tant que pierre vivante, en parlant des disciples, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Laissez-vous édifier. Ce mot-là revient encore. Dans Éphésiens 4, 16, édifiez-vous par le mot. Édifier, ça veut dire vous construire mutuellement. Élevez-vous mutuellement. Encore la même parole. Il prenait la nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est encore un autre mot qui veut dire s'édifier ensemble. Parce que vous êtes un groupe de prêtres. Afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. C'est quoi des sacrifices spirituels? C'est le peuple dans qui ils sont en admiration pour ces grands prêtres et qui dit, moi, je veux donner ma vie à Christ. Et ces sacrifices sont ces gens qui peuvent parvenir à Dieu par Jésus. Est-ce que vous comprenez le principe? Les sacrifices spirituels, ce sont des gens qui décident de devenir des adorateurs. Ces gens qui deviennent des adorateurs peuvent le devenir parce que le sang de Christ leur permet de rentrer dans le sanctuaire pour adorer et de faire partie de cette maison spirituelle. Et c'est à nous, en tant que prêtres, d'amener les gens à rentrer dans le sanctuaire et de les amener à participer à l'Église. Dans un autre verset, dans Hébreux vais le trouver. Dans Hébreux qui dit, Hébreux 10, verset 19, « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire de Dieu. Sans le sang de Christ, tu ne peux rentrer dans le sanctuaire, tu pourras faire autant de pitages que tu veux dans un bâtiment comme ici. Sans le sang, tu ne peux rentrer en adoration avec Dieu. Tu ne peux rentrer dans le sanctuaire pour adorer Dieu. » Alors, j'arrive à un point. Pourquoi que c'est important le temple? Et pourquoi que c'est important les groupes maison? La semaine prochaine, je vais revenir avec les groupes maison pour le définir. Mais je vais terminer. Comment tu peux rentrer comme adorateur si on ne t'a jamais enseigné qui est Dieu? Et si on ne t'a jamais enseigné les préceptes qui te permettent de rentrer dans le sanctuaire pour adorer? Est-ce qu'une personne qui n'a jamais été enseignée peut arriver dans la présence de Dieu et l'adorer? Non, parce qu'il ne sait même pas qui est Dieu. Et si les gens ne sont pas amenés, être appelés à devenir des adorateurs, ils vont suivre ce qu'ils entendent, au lieu de suivre ce que la parole fait et dit. On est dans un temps où je sens l'urgence de vous dire que ceux qui ne marcheront pas dans l'adoration ne tiendront pas. Je ne vous dis pas ça parce que... Je vous dis, les jours qui s'en viennent, spirituellement, vont être plus difficiles. Le taux d'anxiété des gens monte en flèche. Hier, je lisais, puis écoute, c'est complètement, et ça me pousse dans l'intercession. Et ça me pousse d'aller, de dire, « Seigneur, je veux me tenir dans la brèche pour ma ville, je veux me tenir dans la brèche pour ma nation. » Dans les écoles, le taux d'anxiété est tellement élevé que la solution qu'ils amènent, c'est de dire, « On va amener les enfants dans le yoga. » Mais le yoga est un des principes moteurs qui affecte l'esprit des gens qui y participent. Et de plus en plus, il y a des gens qui commencent à avoir des problèmes de santé par rapport au yoga. Parce que le yoga te dit, « Fais le vide. » Quand Jésus t'a dit « Sois rempli de l'Esprit ». C'est tellement contradictoire qu'à toutes les fois que tu veux faire le vide, c'est comme si tu disais à Saint-Esprit « Tu n'as pas ta place ici. Tu n'as pas ta place ici. Je ne veux pas que tu viennes m'affecter. » Mais il y a quelqu'un, par exemple, qui va respecter ce que tu veux. C'est le Saint-Esprit, mais il y a quelqu'un qui ne respectera jamais ce que tu veux. Et c'est le Satan. Lui, il viole ton entrée. Lui, là, il n'attend pas là, que tu rouvres la porte. Là. S'il peut s'initier là, secrètement dans ta maison par rentrer après une fête, il va le faire. Parce qu'il ne veut tellement pas que tu saches qu'il est en train de démolir tout ton sous-sol pendant que toi, tu es en train de penser que tu es en paix à l'étage. Mais c'est ça, on s'aperçoit qu'il est rentré bien souvent dans nos vies, il est en train de nous affecter. Et il y a vraiment, parce qu'on a enlevé une génération de chercher la face de Dieu et de rentrer dans la présence de Dieu. Il s'est infecté de toutes les manières, il s'est infecté dans nos maisons spirituelles de toutes les façons inimaginables. Et on voit les dégâts. Les gens sont anxieux, les gens sont pris en prise de panique. Les enfants, un enfant sur cinq... à l'école, vit d'angoisse. Et ça, on ne parle pas de 14-15 ans, on parle de 8 à 10 ans. Tu travailles dans le milieu, José? Écoute, c'est fou, là. On ne parle pas de quelque chose là, qui a pris 100 ans à venir. Là. Il y a 10 ans, les statistiques étaient inférieures, de moins, ça double. Et c'est rendu de plus en plus exponentiel. En l'espace de 10 ans, il y a quelqu'un qui est venu faire, c'est la firme de statistiques... Je ne me souviens plus du nom, il était à Salut Bonjour, puis il disait, on a calculé le taux d'anxiété qui est véhiculé, le taux de crainte et de stress qui est véhiculé dans tous les médias. Et depuis les 5 dernières années, on a progressé de 300%. Les messages qui sont de plus en plus catastrophiques. Les gens vivent avec la réalité qu'il y a une fin qui est proche. Que ce soit la fin du monde, que ce soit qu'une personne sur deux va avoir un diagnostic de cancer. La fin, que ce soit la fin. Aujourd'hui, le premier facteur sur lequel la majorité des gens se penchent, c'est la santé. La santé. On est au Québec. La santé. On est dans le pays le plus riche. La santé. Comment pouvons-nous être anxieux et vivre au Québec? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Y a-t-il quelqu'un ce matin là, qui s'est demandé s'il était pour déjeuner ou dîner ou souper? Y a-t-il quelqu'un ce matin là, qui s'est levé là, avec la peur de savoir que quelqu'un pouvait rentrer en tout temps dans sa maison là, pour les emmener dans quelque lieu? Est-ce que vous avez peur lorsque vous vous promenez dans la rue de savoir qu'il y a peut-être un barrage puis ça va être le dernier que tu vas passer? Est-ce que tu entends siffler les balles? Est-ce qu'il y a une cri de famine qui est là qui fait que tu... Non, on n'a rien de ça. Mais malgré tout, on vit comme si on était dans les pires conditions qu'il n'y a pas. Et c'est spirituel. On a ouvert des portes. Et je peux vous dire de quoi, vous pouvez étudier certaines histoires concernant l'Égypte et le Liban, mais surtout le Liban, parce que j'ai eu un ami à l'université qui me parlait du Liban. Il dit, tu sais, il dit, aujourd'hui, là, le Liban est envahi. Là. C'est une guerre spirituelle qui fait rage. Là. Il dit, il n'y a plus personne. Là. Il n'y a plus d'avenir dans ce pays-là. Là. Tout le monde se pousse. Ma génération s'est poussée. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien. Mes parents ont dû quitter, puis les enfants ont dû quitter sur l'autre bord, parce que si on passait ensemble, on aurait pu mourir. Parce qu'il y avait une menace constante. Là. Il y avait des radicalistes religieux qui prenaient place. Puis il dit, tu sais, Johan, il dit, vous pensez là, que vous autres, vous êtes à l'abri? Là? Il dit, moi, là, quand je suis levé, là, j'ai dit, le Québec là, ressemble à ça. Il n'y a pas personne qui parlait d'intégrisme, il n'y a pas personne qui parlait de ça. Là. Il dit, ça a commencé tranquillement, puis il n'y a pas personne qui a rien dit, il n'y a pas personne qui a pas lâché. Puis, à un moment donné, sans le savoir, il y a quelqu'un qui est rentré au pouvoir, et cette personne-là a changé de la face. Il dit, dans l'espace d'une semaine, il dit, l'armée est descendue dans la rue, puis il dit, on a commencé à avoir peur. Dans la semaine qui suivait, si tu n'avais pas ton passeport dans la poche, tu s'en allais en prison. Il dit, tu n'es même pas préparé à ça. Il dit, Johan, tu n'es même pas préparé à ça. Tu sais même pas comment te comporter. Tu ne sais pas si tu dois avoir peur, parce que pour nous, les policiers, tu as quand même la sécurité, mais il dit, là, tout a changé. Il dit, tu ne peux même pas penser de sortir de ton pays. Parce qu'en sortant de ton pays, tu viens de te déclarer toi-même étant rebelle au gouvernement. Il dit, ça vient de changer. Il dit, pense pas que vous êtes à l'abri. Il dit, on vous regarde aller. Il dit, puis écoute, tu sais, c'est comme, y a pas, vous... Puis je crois pas que ça, je crois que ça joue au niveau politique, mais je crois qu'avant tout, ça joue à l'intérieur des gens qui vivent dans la nation. Vous voulez changer un pays? Changez la populace. C'est de même que vous changez un pays. Les gens votent ce qu'ils veulent. Et c'est vraiment... C'est pour ça que Jésus disait, tu sais, sois béni ton pays, sois investi pour ta ville. Prie pour qu'il y ait du bonheur, parce que votre paix dépend d'elle. Adorer. Comment pouvons-nous faire le changement? Ce n'est pas en écoutant LCN puis TVA. Parce que lui, il fait qu'augmenter les problématiques d'anxiété que, dans le fond, le pays est en train de partir en vrille. Mais aller adorer. Les disciples, première chose qu'ils faisaient, étaient assidus chaque jour à aller adorer. Adorer Dieu, ça n'a rien à voir avec la musique. Il n'y avait pas de musique, ni dans le jardin, ni sur le mont Horeb, ni à Bethel, ni dans le tabernacle. C'est David qui a institué la musique dans le temple. Mais la musique était là pour louer, non pas pour adorer. L'adoration, c'est véritablement quelque chose qu'on l'a fait pour entendre la voix de Dieu sur notre vie. Le laisser nous parler sur notre vie. Chercher à savoir comment on peut appliquer ses préceptes dans notre vie pour être juste à lui. Il y a beaucoup de choses qui viennent par le sang de Christ. Seigneur, viens me rendre semblable à toi. Les enseignements que Jésus nous a donnés, c'est pour nous permettre de rentrer dans la présence du Père. Ne laisse pas l'amertume, pardonne. Rentre pas avec le cœur offensé, tu ne rentres pas dans le sanctuaire. Parce que la première chose que le Saint-Esprit va te dire, si tu adores un esprit en vérité, va te dire, va régler avec ton frère. Ne rentre pas dans le temple en pensant que tu peux rentrer dans un temple comme tu rentres dans quelques autres rassemblements. Et Paul dit, ne prenez même pas la Sainte Cène sans discerner le corps, parce que c'est un jugement contre vous-même. C'est littéralement ne pas comprendre dans quel endroit tu es et ce que tu es en train de participer. Mais l'adoration, voici ce qu'elle produit. L'adoration produit la liberté. Et la semaine prochaine, je vais vous enseigner les principes de ce qu'on apprenait dans les maisons pour pouvoir aller au temple, adorer. Les maisons sont là pour former des disciples. Former des disciples, c'est former des adorateurs qui marchent avec le Père et qui marchent avec l'Esprit. Le temple plus les groupes maisons font une église de disciples. Si tu élimines les deux, tu as juste une église avec un petit accent aigu. Et il y a vraiment des principes qui font que si dans votre vie, vous voulez avoir ces fleuves d'eau vive qui jaillissent et que vous voulez avoir l'assurance que Dieu descend votre faveur sur votre vie, c'est dans l'adoration. L'adoration est le lieu où tu vois Dieu bouger parce que tu marches avec lui. Tu vois Dieu où il étend sa main et comment il fait les choses. Et quand que Dieu étend la main, les choses changent. Mais Dieu va exercer sa volonté, il va faire ce qu'il en est, mais si tu veux que ta vie soit greffée à sa volonté, il faut que tu ailles au point de rencontre. Il faut que tu connaisses c'est quoi les désirs qui sont dans le cœur de Dieu. Il faut que tu sois en mesure de savoir que quand tu es rendu là, tes désirs doivent être ses désirs. Être radical pour Christ, c'est marcher comme Christ a marché. Et Jésus disait, je ne fais rien que je n'ai pas vu mon Père faire. Et c'est important, je veux terminer avec ça, de dire, il y a vraiment quelque chose qu'il faut réapprendre à l'adoration. Très peu de personnes savent adorer. L'indicatif qui nous permet de comprendre que les gens sont capables de louer, les gens sont capables de rentrer et de louer parce que Dieu a fait quand même, ils ont vécu des expériences, mais beaucoup de personnes ont de la misère à entendre la voix de Dieu. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que Dieu s'attend d'eux. Et beaucoup de personnes cherchent encore ces fleuves d'eau vive. Vivre des expériences, et c'est quelque chose qui doit prendre, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Vous ne pouvez pas commencer à prendre une identité sans comprendre à quoi comporte cette identité. Et lorsqu'on est appelé à avoir l'identité de Christ, il faut comprendre ce que ça veut dire, que l'identité, ça concerne beaucoup de choses. Il y a des points importants à comprendre, de dire que notre identité reflète Christ, ça veut dire qu'on ne fait pas les choses de la même façon. Quand on voit quelqu'un qui est malade, on prie pour le malade. Ce qui est déjà quelque chose qu'on ne voit pas. Si on marche avec notre carte soleil, on va juste. Ça va être d'autres choses. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. C'est une bénédiction d'avoir notre système de santé. Mais le système de santé n'est pas nécessairement. Moi, je crois qu'un jour, le système de santé va être dirigé par l'Esprit. Et avant même de te rendre à l'urgence, il va y avoir deux ou trois personnes qui vont prier pour toi. Et quand tu vas arriver là, ils vont dire, écoute, c'est le médecin qui t'accueille. Parce que là, ça fait un avant-midi qu'il ne sait plus quoi faire. L'adoration, c'est quelque chose qu'on découvre une nouvelle vie. Et apprendre à adorer, c'est pas seulement... C'est quelque chose qui donne une direction à ta vie. Moïse, quand il adorait Dieu, Dieu lui donnait des directives. Voici comment que tu vas amener le peuple à marcher pour moi. Et Moïse était là. Je suis prêt dans l'aude. Vas-y. Puis il se retournait, puis il allait dans un petit groupe. Jéthro, son beau-père, il a dit, t'essayes de prendre la foule. C'est ben trop pour toi. Sépare ta foule en petits groupes pour que chacun puisse prendre part à l'enseignement parce que ce n'est pas juste à toi enseigner, il faut que tout le monde se mette dans l'enseignement. Et le peuple a été divisé en petits groupes de 1200 de 10 pour s'assurer que chaque personne soit en mesure de bien assimiler ce que Dieu demandait. Parce que cette compréhension-là déterminait leur capacité de rentrer dans l'adoration. Et la semaine prochaine, je vais vous parler justement d'un verset clé que Dieu dit à Moïse, de dire, dis au peuple que l'avenir de leur nation dépend de ces petits groupes-là et ce qui va s'enseigner dans ces petits groupes-là. Je vais chasser les ennemis devant toi. Je vais faire en sorte que tu récoltes 4 et 5 fois ce que tu vas semer. Je vais faire en sorte que tu aies assez de repos pour jouer de ta famille et non pas de penser toujours à aller travailler. Je vais améliorer ta qualité de vie. Je vais faire en sorte que ce ne soit pas de l'angoisse qui te lève le matin, mais une joie abondante. Que tu dis, oh, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a en réserve pour moi? L'adoration est quelque chose de différent. Il faut apprendre les gens à adorer. Une des choses que j'ai remarquées, c'est que souvent, avant que les gens soient amenés à adorer, ils doivent avoir des guérisons émotionnelles parce que leurs pensées gabardent comme des chevals fous. Ils sont tellement préoccupés par les choses de la vie que leur agenda n'est même pas mis, ils sont même pas assidus à l'adoration. Parce que les soucis de ce monde ont tellement pris de place dans leur vie qu'ils offrent pratiquement rien à Dieu. Mais pourtant, ces gens sont convaincus, ils marchent dans cette course, sont convaincus qu'ils avancent pour servir Dieu. Pourtant, les fruits, les portes ne s'ouvrent pas, les fruits n'arrivent pas. Mais j'entends souvent des gens de dire, « Ah, oh, passer du temps avec Dieu, tu sais, il n'y a pas juste ça à faire, il faut prendre soin des pauvres. » Bien, si tu veux prendre soin des pauvres toute ta vie, continue à faire ça. Si tu veux enrayer la pauvreté, reste dans l'adoration. Si tu veux changer l'atmosphère céleste, reste dans l'adoration. Jésus adorait, pouvait nourrir des foules avec 5 pains et 2 poissons. Parce qu'il connaissait, il connaissait ce que son père voulait faire. Il a dit, on va faire quelque chose de super un matin. Cette foule-là, ils vont connaître qui je suis. Es-tu prêt, fils? Il y a une grande foule qui va arriver, mais prends ton temps. Enseigne comme du monde. Quand il va être bien affamé, check bien ce qu'on va faire. Un méga buffet. Si tu n'adores pas, tu vas renvoyer les gens, littéralement. Puis ces gens-là vont dire, on a entendu parler de belles choses, mais on n'a pas vu grand-chose. L'adoration change la perspective des choses. Et premièrement, ça commence dans sa famille. Et c'est dans votre famille. Si vous voyez Dieu briller partout, à part dans votre famille, je peux vous dire de quoi. Il y a quelque chose en vous qui va vous dire, il me semble que ça devrait être... Moi, en premier, que ça devrait déborder. C'est-à-dire, tu es venu pour que les fleuves d'eau vive abondent. Ma mère est une femme de prière et d'adoration. Toute sa vie que j'ai vue, elle se levait à 5h30, 6h le matin, elle s'enfermait dans sa chambre de couture, puis elle priait pour son fils. Puis elle demandait à Dieu des stratégies pour que son fils soit gagné pour Christ. Et écoute, aujourd'hui, je suis père, j'ai 4 enfants et j'ai des adolescents et je peux vous dire de quoi, je comprends pourquoi ma mère, je suis gris. Mais Dieu merci, Dieu fait à l'œuvre, puis Dieu poinçonne parce qu'on connaît la puissance que Dieu nous réserve dans l'adoration. Où est-ce qu'on arrive dans sa présence de dire, Seigneur, fais juste me donner une stratégie. Parle-moi. J'écoute, je suis dépassé. J'ai l'impression que l'ennemi est en train de me voler une de mes flèches qui était dans mon carquois. Le Seigneur te donne une stratégie, puis tu tiens. Et tu vois Dieu agir. Et des fois, il y a des temps, des fois, ça peut prendre du temps, des fois, il y a un combat qui est réel. Il y a un processus. Mais Dieu fait une œuvre incroyable. C'est ma petite zothèque, ça. Amen. Et Dieu répond, puis Dieu fait des choses incroyables. Et justement, j'ai l'occasion de pouvoir... viens donc, Zoé. Il y a des jours où Dieu nous met devant des situations pour qu'on apprenne à se battre. Hein? Mais Zoé s'en va pour 6 mois formation de disciples à Hawaï. Yeah! Alléluia! On sent depuis qu'elle est jeune qu'on a vraiment à cœur qu'elle rentre dans les plans de Dieu. Puis vraiment, je pense qu'elle a été touchée de voir sa sœur à Hawaï. Mais pourquoi tu t'en vas là? C'est qu'est-ce qui brûle en dedans?
Qu'est-ce qui brûle en dedans? Est-ce que vous aimez? Ouais. Allô? OK. Qu'est-ce qui brûle en dedans? Bien, c'est sûr de retrouver Dieu, puis de marcher avec lui, c'est sûr que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis juste de me retrouver aussi, de savoir qui je suis, puis de trouver mon identité aussi, c'est quelque chose que je pense que c'est une belle expérience aussi. De,
amen.
Puis ouais. Les voyages humanitaires aussi avec... c'est quelque chose que je veux faire.
Amen. Et Zoé avait... Écoute, je pense qu'elle disait « papa pour maman », puis le premier mot qu'elle a dit, c'est « Arfelina, enfant ». Écoute, elle faisait un étalage de toutou, tu sais. Puis écoute, elle prenait soin de ses petits-enfants, tu sais, puis elle a vraiment à cœur de vraiment travailler auprès des enfants, peut-être un orphelina, quoi, quelque chose comme ça, mais depuis qu'elle est jeune, c'est dans son cœur. Puis je pense que, tu sais, quand on prie pour que Dieu trace une voie pour nos enfants, c'est pas sans lutte. C'est pas sans lutte. Mais Dieu opère des prodiges et des miracles au-delà, parce qu'on sent que la main de Dieu descend au-delà de nos incapacités. Tu sais, quand tu as l'impression que les murs sont trop épais, trop hauts, puis que tu cours comme un fou semaine après semaine pour essayer de trouver une brèche, puis il n'y a pas de brèche. Dans ce temps-là, tu dis, Seigneur, donne-moi une stratégie. Puis Dieu donne une stratégie. Des fois, c'est de tourner dans ton salon, de tourner dans ton salon en disant, Seigneur, abat les murs de cette ville fortifiée où, comme Sonia disait, qu'elle avait été appelée par le Saint-Esprit d'aller en avant puis de danser sur « C'est la fin du chaos ». Elle avait témoigné il y a quelque temps. Puis elle était là, elle se battait pour dire « OK, c'est fini, c'est changé ». Puis Dieu opère des choses. Et Dieu le fait d'une façon tellement merveilleuse qu'il n'y a pas de contraintes. C'est encore la liberté qui est là. Il n'y a pas de menace. Dieu gagne nos cœurs. Est-ce qu'on peut se lever pour prier pour Zoé pour son départ? Est-ce que je peux demander, je ne sais pas s'il y a des leaders, les bricots qui ont été des parents spirituels, est-ce qu'il y a les... venez, les filles. Amen. Alléluia. Seigneur, on veut prier, Seigneur, sur sa vie pour qu'elle puisse connaître, Seigneur, des portes ouvertes, pour que tu puisses la diriger. Mais surtout, Seigneur, ce qu'on prie, c'est que tu puisses prendre la première place dans son cœur, venir siéger, Seigneur, au milieu de son cœur, établis en elle, Seigneur, ta maison. Seigneur, qu'elle puisse connaître, Seigneur, tes plans encore davantage, mais qu'elle soit ressourcée de ta présence. Amen.
Non, mais je voyais vraiment, il y a comme il y a une grande victoire. Ici, on a assisté, on est comme maintenant, là, puis tout le monde est là, puis on a assisté à un grand miracle. Il y a dans les lieux célestes, il y a des milliers d'anges qui se réjouissent pour Zoé. Il y a eu une grande guerre qui s'est livrée, puis ça a été gagné. Puis moi, Seigneur, je veux déclarer encore la victoire dans la vie de Zoé. C'est vraiment une conquérante, c'est quelqu'un qui est vrai. Moi, je voyais vraiment sa fraîcheur, qu'elle va répandre partout. Je voyais comment ce qu'elle était vraie. Son cœur est sensible et tendre. Et elle est appelée à aller vers les nations, puis elle est appelée au cœur des enfants. Elle va aller partout où il y a des enfants, elle va toucher leur cœur. Oui, Seigneur, moi, je voyais vraiment, je suis vraiment émue devant Zoé, puis je veux qu'elle sache qu'elle est vraiment importante, puis qu'elle prenne sa place.
Amen.
Amen. J'avais la vision d'une petite Zoé qui marche dans la forêt, puis avec entourée de coéquipiers, puis de gens, puis avec un chemin, une direction, puis qui marche, puis qui avance, puis qu'on dirait que la forêt se densifie, puis on dirait qu'on la voit perdre des coéquipiers, puis plus elle marche, puis plus le chemin devient plus difficile, puis on est plus sûr, elle est comme plus sûre du sentier qu'elle doit emprunter, puis la forêt continue à s'intensifier, puis à se densifier, puis à un moment donné, elle se ramasse tout seule, puis on ne trouve plus le chemin, il n'y a plus de chemin. Puis Zoé continue à avancer, puis dans le fond, elle réalise qu'elle est complètement perdue, puis la forêt est devenue une jungle, puis elle danse, puis on sent une certaine crainte, un découragement, une colère, puis un abandon. Là, je voyais qu'il y avait une progression. Puis à un moment donné, on se rend compte que tu es sur le bord d'une falaise. Puis là, tous tes coéquipiers sont là. chaque côté. Puis c'est vraiment une immense chute sur le bord de la jungle, puis de dehors, une falaise immense. Puis dans le fond, tu es là-haut, tu es à la hauteur des cieux. Puis tout le monde est là, puis ils te regardent. Mais personne bouge, personne avance. Puis là, tout le monde regarde toi en disant, mais qu'est-ce qu'elle fait? Puis là, on te voit déployer des ailes immenses. Puis là, le monde réalise de dire, ah, vas-tu le faire? Ah, vas-tu vraiment faire ça? Et tu déploies tes ailes et tu t'élances. Tu t'élances, puis tu voles à la hauteur des cieux. Puis tout le monde est comme rempli de courage, tout le monde est rempli de force à juste te voir prendre ton envol. Puis ce qui était jadis une épreuve, puis ce qui était une tribulation est devenu un sujet de gloire et un sujet d'honneur pour tout le monde. Et l'équipe du début est comme complètement restaurée, complètement encouragée de voir cet envol qui est pris, puis de voir que, dans le fond, le chemin parcouru t'a fortifié, le chemin parcouru t'a équipé encore davantage pour un appel à la hauteur des cieux.
Je veux seulement déclarer dans ta vie, Zoé, Dieu dit, viens me rencontrer, puis il a hâte de passer des temps uniques avec toi. Je le vois qu'il dit, il est à table, puis il t'attend pour un café, puis il dit, tu vas avoir plein de moments privilégiés de même avec moi, puis on va juste jaser, puis ça va être simple, puis il n'y aura rien de compliqué, puis ça va juste être agréable, puis je vais avoir l'honneur de pouvoir être avec toi.
Seigneur, moi, je te prie pour Zoé, une pelle précieuse, c'est ton enfant, Seigneur. Puis tu sais à quel point qu'elle a un beau cœur, à quel point elle a un cœur pour les gens. Puis, Seigneur, je te prie juste de venir la garder, de venir la protéger, puis que pendant ce temps-là qu'elle va être à Hawaï, qu'elle puisse vraiment avoir un cœur à cœur avec toi, qu'elle puisse vraiment avoir une rencontre, Seigneur, avec toi, qu'elle puisse te découvrir comme qu'elle t'a jamais découvert. Que tu puisses vraiment te venir à te révéler à elle. Fais en sorte aussi, je veux t'encourager, Zoé, à ouvrir ton cœur, à être ouverte, à faire les pas nécessaires, puis de juste, comme, tu sais, je voyais vraiment là, les bras levés vers les cieux, prête à recevoir encore, encore, puis encore toutes les choses que ton Papa Céleste veut t'envoyer, à recevoir cet amour qu'il veut t'envoyer, à recevoir toutes les choses merveilleuses qu'il y a pour toi, parce qu'il t'aime, il t'aime tellement, puis il veut juste ton bien. Puis je veux juste t'encourager à faire tout qu'est-ce qui va t'être offert, toutes les choses qui vont se présenter devant toi, pour vraiment pouvoir saisir cette opportunité-là au maximum. Puis Seigneur, je veux juste encore une fois te prier de venir la bénir, de venir la garder dans chacun de ses pas, Seigneur. Puis on sait que tu ne t'en vas pas là seul, parce que derrière toi, il y a des gens qui se tiennent pour toi, il y a des gens qui prient pour toi, il y a des gens qui intercèdent pour toi, puis qui sont là toujours en arrière de toi. Tu sais, ton papa, là, il continue, il est en avant, puis lui, il marche pour t'ouvrir les voies, mais nous, on est là en arrière. Puis on s'infirme, puis on prie encore pour toi. Puis je veux juste te dire que je t'aime, que tu es importante pour Dieu, puis que tu es une perle. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Merci. Pierre et Marcine, hey, ça, c'est du pénible, aller à Hawaï pour faire une formation de disciples. Hein? Attica, t'es dans la grosse misère. Amen. Est-ce qu'on peut rester debout? Vraiment, ce que j'avais à cœur pour vous, merci Zoé, ce que j'avais à cœur pour vous, ce que Dieu me disait, c'est de dire, venez à ma rencontre. Je sais qu'il y a des choses qui se font ensemble, mais le Seigneur veut vous emmener à ce que vous puissiez véritablement rentrer et vous emmener à avoir un cœur de disposition pour rentrer dans l'adoration. Il y a des temps où que on doit apprendre à justement fermer la porte sur les soucis de ce monde, apprendre à regarder la qualité de nos émotions, où ce que les choses nous ont emmenés, d'être capable de faire un diagnostic de qui qu'on est, parce qu'on sait que lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, toute chose est mise à nu. Et Seigneur, on veut t'offrir une adoration, Seigneur, selon le désir de ton cœur. Et je voyais vraiment que cette semaine, le défi que je vous envoie, c'est de dire, prenez un temps cette semaine pour aller dans un temps avec Jésus, pour dire véritablement, de dire, qu'est-ce que je dois corriger dans ma vie? Je veux que ton sang puisse agir dans ma vie. Je veux pouvoir rentrer dans la présence de mon Père. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. On a parlé qu'il y avait une conférence, qu'il y a eu en fin de semaine une conférence avec les enfants qui étaient ici. Et vendredi soir, ils ont vraiment senti la présence de Dieu. Les enfants étaient écrasés par la présence de Dieu. Certains riaient, d'autres pleuraient, mais c'était tellement pesant sur leur vie qu'il y avait un désir de vouloir être sanctifié puis de laisser Dieu agir à travers leur cœur. Et ça fait partie de ces temps où ce qu'on amène l'œuvre de Jésus sanctifier et purifier nos cœurs. Et je veux vraiment relâcher. C'est un temps où ce que Jésus nous appelle à marcher à sa suite. Parce que nous avons une mission, un mandat, c'est de faire ensemble une maison spirituelle, un lieu d'adoration pour Dieu. Et vous êtes tous appelés à être des adorateurs. Le Père cherche chacun de vous. Parce que le Père veut se révéler à chacun de vous d'une façon personnelle. Il veut vous dire qui il est et pourquoi il vous aime tant. Et quels sont les plans pour ta vie. Et je prie que cette semaine, vous ayez un temps où ce que vous allez véritablement vous préparer pour rentrer dans sa présence. Alléluia. Seigneur, je te prie ce matin d'agir. Saint-Esprit, agis. Peut-être certaines personnes ont besoin de venir en avant ce matin pour recevoir de la prière. Recevoir justement, de pouvoir entendre, d'avoir une onction de guérison, de pouvoir remettre des choses au pied de la croix. Alors Seigneur, on veut te dire que ce matin, on avance, Seigneur, ce peuple devant toi, Seigneur, devant ton sang, pour qu'il soit sanctifié. Alors, si vous sentez le besoin de venir sur ce dernier champ, avancez en avant, il y a une équipe de prière qui va venir prier pour vous. Les leaders de cellules vont venir prier pour vous. Alléluia. Soyez richement bénis. Que Dieu vous accompagne.